Qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie? Ça, c'est une bonne question. Je crois que c'est... Alors, deux choses sur le plan plus général, la curiosité et puis l'empathie que j'ai pour les gens qui m'entourent d'une façon générale. Voilà, c'est les deux choses qui me font marcher. J'aime bien communiquer et puis j'aime bien découvrir, connaître, apprendre. Et c'est ce qui m'a servi un peu tout le temps dans ma vie d'ailleurs, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Voilà ce qui me fait marcher, la curiosité et l'empathie, pour simplifier. On peut appeler ça l'amour si on veut, mais c'est un peu trop directionnel peut-être.
Bonjour, avec la complicité de Daniel Verling, président de la Société d'Astronomie de Nantes, nous accompagnons dans la rue Michel Viseau, responsable du programme Exobiologie au CNES.
Quand j'étais petit, j'étais vétérinaire et je soignais les veaux, les vaches et les cochons. Et j'étais même venu à l'école vétérinaire de Nantes, il y a déjà longtemps quand même.
Qu'est-ce qui vous attirait dans cette discipline?
Alors, j'ai toujours su que je serais vétérinaire. À partir de l'âge de 6 ans, j'avais décidé ça un jour dans l'étable de mon grand-père avec les vaches et un vétérinaire qui était là, qui était d'ailleurs homonyme de mon grand-père, Capéran. Et il m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit, je serai vétérinaire. Et le plus fort, c'est que toute ma famille l'a cru, alors que mes exploits scolaires étaient bien loin de me laisser espérer la possibilité de le faire. Mais j'avais le droit d'avoir de l'espoir, puisque de toute façon, à l'époque, je n'avais aucune idée de la façon dont on le devenait. Donc j'étais optimiste, et ça a fini par marcher, malgré... disons, une scolarité que je qualifierais d'assez ronronnante et médiocre, jusqu'au dernier stade où il a fallu que je commence à travailler.
À un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, mais ce serait bien que j'aille soigner les vaches sur une autre planète.
Alors, c'est pas tout à fait comme ça s'est passé. J'étais tout à fait dans les vaches, j'étais même dans la physiopathologie, donc l'étude du processus pathologique qui se produit chez les animaux, comment ils deviennent malades, hein, pourquoi il y a des symptômes, qu'est-ce qu'ils représentent. Et puis un jour, je faisais plein d'autres choses à côté, c'est l'aspect curiosité, donc je faisais des émissions de radio et je travaillais dans un journal qui s'appelle toujours la semaine vétérinaire, enfin je collaborais à un journal, et un jour je vois un vétérinaire cosmonaute, et je me suis dit, tiens, ça c'est pour moi. J'ai envoyé ma candidature, enfin il fallait téléphoner pour avoir un dossier, donc j'ai reçu le dossier, je l'ai fait remplir par le médecin, comme quoi j'étais beau, grand, bref, fort et en bonne santé. Et puis j'ai envoyé ça, je suis entré dans un processus de sélection qui m'a conduit en 1985 à être sélectionné comme astronaute français avec 6 autres petits camarades. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le domaine spatial. Ce n'est pas une vocation que j'avais quand j'étais bébé ou quoi que ce soit. De toute façon, le spatial m'intéressait comme toutes les sciences, bien sûr, dans la catégorie curiosité. Mais à l'époque, des cosmonautes français, c'était... tout simplement inimaginable dans les années 60, entre 60 et 70, ou même 75. On ne pouvait pas imaginer qu'il puisse y avoir des cosmonautes français. C'était vraiment réservé aux soviétiques de l'époque et aux américains de l'époque. Et donc c'est par hasard et par ce biais-là que je suis rentré dans le domaine spatial.
Vous étiez postulant, mais pas en attente d'un départ pour l'espace.
Alors j'étais dans l'attente d'un départ pour l'espace, tout à fait. J'ai travaillé pendant 8 ans sur un projet qui s'appelait le projet Rhesus, un projet animal. Et il se trouve que la chute du mur de Berlin aidant, on s'est réorienté dans les activités spatiales du monde occidental. On a décidé de faire la station spatiale internationale pour faire en sorte que les savants russes ne partent pas à l'étranger parce qu'ils n'étaient pas payés. Donc, et puis il y a des gens qui les intéressaient, qui s'y intéressaient par contre les Pakistanais, les Iraniens, les Coréens du Nord, les Chinois, pour faire... parce que l'astronautique russe était sinistrée. Et donc les pays occidentaux ont acheté des modules et des vols aux Russes pour maintenir la station Mir. Et ils ont décidé de faire 10 vols de la navette vers la station Mir. Les Américains savent compter. S'ils font 10 vols en plus quelque part, ils font 10 vols en moins ailleurs. C'est tout bête, hein. Et donc ils ont supprimé les vols scientifiques, et notamment les vols qui devaient emporter... les expériences sur lesquelles je travaillais, donc le projet Rhesus qui devait à l'époque voler 3 fois et qui me laissait donc l'espoir de voler 3 fois. Et ça s'est traduit par 3 fois rien, 0.
Une petite déprime?
Non, pas de déprime, parce que c'est des choses, ça n'arrive pas d'un seul coup, c'est pas une grande claque. On sent les choses venir, enfin on est dans le monde politique, dans le monde spatial, enfin on est dans le monde spatial est éminemment politique, donc on suit toutes ces relations internationales. Et donc, on sait que ça arrive, on sait qu'on n'a plus de chance, on sait que, enfin, au moins ces chances-là disparaissent. Après, j'ai participé à des sélections pour faire figurant au niveau des sélections chez les Russes, et puis à deux sélections, dont une assez sérieuse chez les Américains. Voilà, mais bon, et puis la vie continue, et la vie change, vous savez, sur une période de 10, 12, 15 ans, hein, de 85 à 93, ça fait déjà 8 ans. J'ai vraiment arrêté tous mes espoirs en 96, donc 11 ans. La vie a changé, on a mûri, notre vie familiale s'est peuplée diversement. Et donc voilà, donc non, pas de déprime. Une déception, certes, mais je pense que personne ne m'a vu déprimer.
Comment on peut définir la vie ?
Eh bien justement, c'est ce que je ne sais pas faire. Alors non, je ne sais pas définir la vie parce que bon, on voit bien la différence entre une jolie fille et un gros caillou, mais ce n'est pas suffisant. Et le problème, c'est les limites. Et on sait que les limites, quand on n'a pas des limites nettes, on sait qu'on n'a pas une définition qui est vraiment exacte. Et donc, je ne parlerai pas de définition, mais je parlerai des manifestations de ma vie, de quelques caractéristiques que j'ai, qui sont faire plus de soi-même par soi-même, être capable de se multiplier en transmettant l'information et être capable de transmettre cette information de façon imparfaite, parce que c'est ça qui définit en fait l'évolution. Et donc quand on a ces trois caractéristiques, on a à peu près quelque chose qu'on peut penser être de la vie.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que vous puissiez rechercher un de mes confrères en train de réaliser la même chose que moi sur notre planète ?
Alors, c'est très décevant parce que pour moi la vie humaine n'a rien de particulier, à part que j'ai beaucoup de plaisir à la vivre. C'est mon caractère très humain. Mais pour moi, la vie, c'est cet assemblage de molécules. Donc, on va prendre les plus simples, quelques lipides, des graisses pour simplifier, quelques protéines, des acides aminés, de la viande, et puis du sucre, hein, pour simplifier, des glucides. Tout ça, c'est ce qui fait le métabolisme, avec quelque chose qui dirige cet ensemble-là. Qui sont ce qu'on appelle les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, avec des molécules relativement simples, hein, quatre lettres dans l'alphabet du code génétique, enfin 5, parce que dans l'ARN, il y en a une qui est différente, mais donc vraiment très peu. Et la vie, c'est ça. Et la vie de la plus belle des bactéries à la plus simple des girafes, c'est ça qui fonctionne. Et en fait, il y a très peu de différence entre les différents... entre les différents phylums de la vie sur Terre. Donc la vie, pour moi, humaine, c'est la même que la vie microbienne, et micro-organisme, pour simplifier. Et je crois que ce sont des choses que... Pour moi, il n'y a pas de différence entre l'homme et la bactérie. C'est pareil, sur le plan biologique, de façon générale, hein, bien sûr. Et à partir de là, quand on cherche de la vie, on va d'abord chercher de la vie... une vie extraterrestre, je dirais, sous forme de microbes. Ça, c'est sur des planètes du système solaire ou sur les quelques endroits qui pourraient éventuellement héberger ce genre de vie qui aurait pu se développer. Et on va chercher surtout sur les planètes extrasolaires des manifestations de cette vie. Et ça suppose des conditions que je vais détailler pendant la conférence, qui sont, il faut qu'il y ait une atmosphère, il faut qu'elle modifie cette atmosphère pour qu'on puisse détecter quelque chose, et après il faut que ce soit pas trop loin pour qu'on puisse le détecter. Est-ce qu'il peut y avoir un journaliste qui fasse la même chose ailleurs ? Alors, c'est un grand problème existentiel avec lequel j'ai des discussions, même très vives au sein de la communauté scientifique, parce qu'on discute beaucoup, bien sûr. D'après moi, c'est une illusion de chercher une vie dite intelligente, parce que la photographie que l'on a aujourd'hui du monde vivant sur Terre, qui est une photographie instantanée, hein, qui est un instantané, c'est le fruit d'une évolution, et ça sera suivi d'une évolution qui continue, hein, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et cette évolution, elle est le fruit de hasard, ce sont les mutations dans le système d'information, c'est l'imperfection de la transmission d'information, et d'autre part d'un facteur de sélection, et je n'appelle pas ça la nécessité, enfin, je ne suis pas d'accord avec Mono, je ne me permettrai pas de dire ça avec un Fernand Frenay, mais j'ai le droit d'avoir un certain désaccord en disant que il n'y a pas de nécessité, parce que la nécessité, ça veut dire qu'on le fait pour quelque chose. Non, il y a un facteur de sélection. Si le facteur de sélection Enfin, si la mutation qui s'est produite au hasard donne un avantage à l'être vivant qui a subi cette mutation, avantage qui peut être soit l'accès à la nourriture, soit à la reproduction, eh bien, cet être vivant va fixer cette mutation et la population qu'il va générer autour de lui va devenir soit une nouvelle espèce, soit un nouveau genre et évoluer. Donc, ça, c'est quand on regarde des populations individuelles les unes derrière les autres. Quand cette population dépend d'autres populations, comme tous les hétérotrophes, comme tout ce qui n'est pas capable de transformer la lumière du soleil ou l'énergie directement en énergie chimique, eh bien, on dépend des autres espèces. Et donc, ce qui a conduit aux primates hominiens et aux hominidés, nous, pour simplifier, eh bien, c'est les mutations qu'il y a eu chez le ver de terre, la taupe, les bactéries il y a 1 milliard d'années, les linés, les poissons, les requins et autres mammifères marins, etc. Donc, nous sommes le fruit, l'écosystème dont nous faisons partie, un petit élément dans l'univers aujourd'hui, sur Terre, est le fruit de cette évolution qui a des milliards d'années maintenant.
Petit clin d'œil, nous sommes au niveau de la cour du château des Ducs de Bretagne, avec une installation, un œuf géant. Voilà. C'est l'œuf ou la poule? C'est la question.
Alors, en termes de biologie, dès l'instant où on est dans la reproduction sexuée, si on parle d'œuf que pour de la reproduction sexuée, c'est forcément l'œuf qui est d'abord. Et l'œuf n'a pas forcément une coquille. L'œuf, dans mon esprit biologique, c'est lorsque le spermatozoïde a pénétré l'ovule, deux cellules monoploïdes, qui ont, ou haploïdes, c'est-à-dire qui n'ont que la moitié du patrimoine génétique chacune, elles se mettent toutes les deux ensemble, et ça fait un œuf. Donc, la première cellule de l'individu qui a effectivement l'ensemble du matériel génétique qui va déterminer sa vie pendant toute sa durée, la durée qu'elle durera.
La question n'a pas lieu d'être.
Alors, dans mon esprit, elle n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que c'est forcément... il y a eu des œufs sans coquille avant que l'œuf avec une coquille apparaisse. Il y a un individu, un jour, qui a développé une membrane... un œuf plus important, et ensuite une membrane, et cette membrane est devenue une membrane coquillère qui ensuite est portée et sécrétée une coquille. Donc voilà, donc en termes de biologie, il n'y a pas d'interrogation. Voilà. La recherche en exobiologie, donc la recherche d'une vie extraterrestre, la recherche de la contribution des molécules qui nous entourent, des molécules de l'espace qui nous entoure à l'apparition ou à l'émergence de la vie sur Terre, toutes ces recherches-là sont des recherches qui sont quand même relativement des sciences dures, j'allais dire, c'est-à-dire c'est de la géologie, c'est de la spectrométrie, c'est de la chimie approfondie, c'est de la planétologie bien sûr, c'est de l'astronomie. Il n'y a pas énormément de statistiques actuellement, dans le sens où on l'entend sur des événements, une succession d'événements. Les statistiques, elles apparaissent dans l'abondance de données que nous sommes actuellement capables de recueillir, qui ressemblent un peu aux données de la génomique humaine, de la génétique, ce genre de choses. Et on fait ce qu'on appelle du data mining. Et on s'aperçoit que aussi bien en astronomie, on va s'en servir pour découvrir des exoplanètes, aussi bien... maintenant en chimie, avec des instruments extrêmement puissants pour faire de la spectrométrie de masse, pour détecter et déterminer des molécules, on rentre dans des systèmes statistiques, enfin des systèmes d'analyse mathématique qui font appel à certaines fonctions statistiques. Mais on n'est pas dans la statistique en essayant de déterminer la proportion de blonds et de bruns, de grands et de petits, et d'hommes et de femmes.
Nous accompagnons dans la rue Michel Vizeau, responsable du programme Exobiologie OCNES.
bien entendu, lorsque l'on va faire de l'exploration in situ avec des instruments, il y a des limites sur les instruments. Il y a certains instruments dont on est capable, que l'on est capable de concevoir et de faire évoluer, de gagner un facteur 100 ou 1000 ou 10 000 dans la sensibilité entre deux missions à 5 ou 6 ans d'intervalle. Il y a des limitations de ce côté-là. On a des limitations, bien sûr, en astronomie, mais qui sont des limitations physiques. C'est-à-dire que, c'est par exemple l'exemple du SETI, pour avoir un signal qui est émis, imaginons la Terre, qui est émis à 3 millions d'années-lumière, les chances qu'on détecte les photons sur une antenne radio à un moment donné, la radio, c'est tous les rayonnements électromagnétiques, des rayons gamma, en passant par la lumière visible, les ultraviolets, l'infrarouge, et les ondes radio, tout ça, c'est la même chose. Physiquement, c'est la même chose. Pas pour moi, c'est là, physiquement, c'est la même chose. Et donc, ce sont des photons. Donc, les photons de radio, pour qu'on puisse les détecter, il faut qu'ils soient émis puissamment. Donc, si on n'est pas capable de détecter un soleil, on ne va pas détecter l'émission radio d'une planète à côté. Et quand bien même on détecterait quelques photons, dans un signal qu'on pourrait qualifier de cohérent, l'interprétation et la compréhension me semblent difficiles. Si par hasard, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait des civilisations utilisant la radio, on a déjà du mal à se comprendre avec sa femme, alors je ne parle pas de son chien ni d'un extraterrestre.
Il me plaît de penser que ce qu'on est en train d'enregistrer est aussi stocké dans l'espace. Bon, le signal sera très très faible, il faudra le discriminer, mais quand même, ça me fait rêver de le penser.
Le signal sera émis, mais le problème c'est que là on va rentrer non pas dans la statistique, mais dans le calcul simple du photon. C'est si j'émets dans ma longueur d'onde 250 000 photons à la seconde, ils vont se disperser de façon aléatoire et la couverture à 360 degrés dans l'espace, fait que, à l'orbite de Jupiter, il y aura un photon par kilomètre carré. Donc il faudra une grosse antenne pour que j'en trouve plusieurs quand même.
Bon, on peut parier sur l'avenir.
À quoi pensez-vous en été, dans la journée ou le soir, lorsque vous regardez le ciel? Qu'est-ce que cela vous inspire?
Vous inspire ou alors vous fait penser?
Vous fait penser.
Le ciel, l'été, aux étoiles filantes, aux rêves, au plaisir, on va dire. À la beauté du ciel. Un ciel étoilé, c'est toujours plaisant. On se dit, tiens, il va faire beau demain, par exemple.
Déjà, il fait beau. Quand on voit les étoiles, déjà, il fait beau. Est-ce que ça vous incite des réflexions qui dépassent la sphère simplement de la vision pour aller dans la pensée? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où viennent ces étoiles? Sont-elles là pour toujours? Je ne sais pas.
Ah oui, alors là, après, c'est de la philosophie, oui, effectivement.
C'est un questionnement de l'humain.
On peut pas dire, oui, effectivement. Vu que nous, on est vivants sur la Terre, pourquoi il n'y aurait pas une autre vie ailleurs, sur une autre planète? Ça, c'est sûr. C'est même évident, je pense. Quelque part ailleurs, il y a une vie.
Enfin, moi, les étoiles, ça m'inspire autre chose. Alors, ça m'inspire plein d'êtres qui ne sont plus et qui, par leur sentiment, réexistent.
Vous habitez les étoiles des âmes, entre guillemets, des défunts, et des disparus, disons.
Ouais, entre autres, parce que bon, c'est vrai que un autre système solaire peut aussi exister. Il y en a d'autres, de toute façon. Ouais.
Quand Jean-François dit que c'est évident qu'il y a de la vie ailleurs?
Pour moi, c'est beaucoup moins évident, scientifiquement. Mais, la science est une chose. Donc, moi, je fais partie des scientifiques. Donc, on a des ratios, des raisonnements, etc. Et puis, le rêve, la poésie, l'imagination, la transposition, l'identification, comme Madame le fait, comme Christine le fait, ça fait partie aussi de la richesse et de la particularité de l'esprit humain.
Merci à Michel Vizeau, responsable du programme Exobiologie au CNES, et merci à
Jean-François
et Christine
pour leur libre participation à ce reportage réalisé avec la complicité de Daniel Wörling, président de la Société d'astronomie de Nantes.